Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
La zone payante. Bienvenue dans la zone payante, amateur de football, Mathieu Boivin, à l'animation de votre émission favorite. À ma droite, Stéphane Cadaret, journaliste Journal de Québec, spécialiste NFL. En forme, mon Steph?
Ben oui, et vous?
Oui, très en forme, et je me reviens à ma gauche, Jean Carrier, notre spécialiste fantasy, ex-analyste du Rouge et Or Football. En forme, John, ici?
Dangereusement en forme.
Ouh, ça c'est dangereux. On commence la journée en force avec un invité sympathique, Sacha Gavamy, agent de joueur de la NFL, notamment Laurent Duvernay-Tardy et Anthony Auclair. Ça va bien, Sacha?
Oui, allô, ça va bien, vous autres?
Oui, en pleine forme. On va commencer peut-être avec, si tu veux bien, Sacha, le retour de Laurent la semaine dernière. Ça s'est bien déroulé, une belle victoire. Est-ce que tu as probablement parlé depuis? Comment ça s'est passé, ce match-là, pour lui?
Ouais, ça a été bien. Je pense que, à mon avis, Laurent a joué son meilleur match d'année, je dirais. Je pense qu'il avait l'air en pleine forme, je pense bien rétabli de sa blessure, malgré le fait qu'il joue en altitude et que l'oxygène se fait rare quand on joue dans des villes comme Mexico ou Denver. Il a vraiment joué un match complet du début à la fin. Il a été très physique. C'est vraiment ce jeu de course, je trouvais qu'il avait très bien fait. Puis quand j'ai reparlé après le match, pour voir si ses impressions étaient les mêmes que les miennes, ben c'était le cas. Effectivement, il était très content de son match, content de pouvoir profiter d'une semaine de congé avant d'entamer le dernier droit. Les Chiefs ont une bataille assez intéressante avec les Raiders. Le match en revenant, c'est leur plus gros match de la saison contre Oakland. Ça pourrait avoir une issue déterminante sur la division. Mais Laurent, je pense qu'il a joué un excellent match et je pense que c'est de bon augure pour le reste de l'année.
Dirais-tu, toi, qui est, écoute, Sacha, on sait que les joueurs jouent souvent avec des bobos, jouent souvent blessés, là, c'est rare qu'on est à 100%. Est-ce que Laurent, en ce moment, est du moins proche d'être à 100% de ses capacités, là, après sa blessure à la cheville?
Ouais, je pense que la guérison a bien été. Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas brûlé d'étape, il n'a pas sauté d'étape. Il a écouté son corps, puis il a compris que fallait prendre un peu de temps. Je sais que Laurent, le compétiteur, aurait voulu jouer la semaine avant qu'on ait du temps. Mm-hmm. Mais je pense que la meilleure chose qui est arrivée, c'est qu'il prenne une autre semaine de repos. Au final, il aura manqué deux matchs. Ce n'est pas la fin du monde du tout dans les circonstances. Ça pourrait être bien pire. Et je pense que ça permet de guérir aussi, de se reposer après. Le corps se rafraîchit. Je ne veux pas les Chiefs avec Andy Reid. Et c'est un style de coaching qui est très efficace, mais très vieux jeu, si on veut, avec beaucoup les pratiques sont très intenses. Il roule beaucoup de jeux sur le corps, ça devient assez intense. Fait que c'est sûr que, comme tu dis, Steph, t'es jamais à 100% quand tu joues au football professionnel, mais je pense que Laurent il est définitivement en meilleure forme physique depuis avec son retour de blessure qu'il l'était quand il s'est blessé dans le fond.
Sacha, à ton avis, avec le niveau de jeu que Laurent est capable de jouer, s'il ne rate plus de match d'ici la fin de la saison, tu penses-tu qu'il est en liste pour peut-être son premier Pro Bowl?
Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense que Laurent a définitivement le niveau de jeu d'un joueur digne du Pro Bowl. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à avoir un contrat comme il y a eu, dans le fond. L'équipe reconnaissait ça aussi, que c'est un joueur dans les meilleurs à sa position. Au final, ces honneurs-là dépendent de plusieurs facteurs. C'est des votes des partisans, c'est des votes de ses pairs. C'est sûr que manquer une coupe de match ferait mal, mais en même temps, avec une bonne fin de saison, puis s'il aide les Chiefs, si les Chiefs continuent à avoir du succès, puis si Laurent continue à avoir du succès lui aussi, je pense que définitivement, il devrait faire partie de la conversation. Je pense que ça commence sa troisième saison dans la Ligue, où ce que, à mon avis, c'est vraiment là qu'on a vu qu'il faisait partie de l'élite de la NFL à sa position. Puis je pense pas que ça a changé depuis.
Est-ce que c'est un objectif pour lui de faire une fois l'équipe d'étoiles?
Je te dirais que c'est plus un Super Bowl, l'objectif pour lui. Quand on parle du Pro Bowl, c'est sûr qu'un honneur individuel, c'est toujours le fun. Mais c'est drôle, hein? Les athlètes, ils veulent beaucoup plus la reconnaissance de leurs entraîneurs, de leurs coéquipiers que nécessairement de la ligue ou autre. Puis Laurent, ce qui est important pour lui, c'est que son coach de position, Coach Heck, il satisfait son travail, que Coach Heck satisfait son travail et que ses coéquipiers aussi. Fait. Puis je pense que si tu connais du succès sur le terrain, ben ça peut se traduire définitivement dans les honneurs individuels comme un Pro Bowl. C'est sûr qu'il dirait pas non à cet honneur-là, mais je pense pas que c'est quelque chose à laquelle il pense de façon régulière. Lui, il veut juste aider l'équipe à gagner et à aller plus loin possible.
Sacha, tu as effleuré le sujet du contrat de Laurent. Puis tu as parlé aussi de qui aime avoir, évidemment, comme tout joueur, la reconnaissance de ses pairs, de ses coéquipiers, de ses entraîneurs. Qu'est-ce qu'il en est de l'appréciation des Chiefs pour Laurent? Puis est-ce que tu penses justement qu'il a suffisamment fait malgré les blessures dans les dernières années pour que son association continue avec les Chiefs? Parce qu'on sait que Laurent en avait parlé avant la saison. Ça faisait partie de ses préoccupations. Son contrat, le principal des garanties, va être terminé. T'sais, est-ce que tu penses que les Chiefs ont vu en masse de lui pour aller de l'avant, là?
Moi, je pense, oui. Pour répondre à ta question, Stéphane, je pense que oui.
Mm-hmm.
J'ai pas de doute que les Chiefs valorisent Laurent au plus haut point. Ils sont satisfaits de son travail, de la façon qu'il se comporte, puis la façon qu'il joue. Puis on regarde beaucoup, hein, quand on regarde des matchs, en mettant la protection de passe, mais Laurent est très bon en protection de passe, mais il y a un autre endroit où il excelle beaucoup. Pour moi, c'est vraiment au niveau du jeu de course. Puis les Chiefs sont une bien meilleure équipe quand Laurent est dans l'alignement, notamment parce que dans le jeu de course, il est capable d'être très physique et d'ouvrir des brèches et des gaps qui sont intéressants pour les porteurs de ballon.
Ouais.
Malgré que le contrat est plus garanti après cette année, je pense que Laurent reste parmi les meilleurs de la ligue. C'est sûr que les Chiefs, il faut qu'ils gèrent une équipe. Ils ont une masse salariale à gérer. Ils ont des contrats à venir. Ils ont Pat Mahomes qui va être éligible à se signer. Ils vont avoir des décisions à prendre. On n'est jamais à l'abri de décisions. Mais moi, je suis en pleine confiance que les Chiefs veulent maintenir leur association avec Laurent. Regardez, tu sais, je veux dire, Laurent, il revient d'une blessure après deux matchs, il réintègre l'alignement. Leur ligne offensive, de la façon que c'était contre les Chargers, était la première fois depuis, je pense, la première semaine de la saison,
ouais,
où il y avait leur alignement partant. Puis ça va aider beaucoup l'équipe s'ils peuvent rester en santé, parce que c'est cette ligne offensive-là qui va les aider à se rendre jusqu'au bout. Donc, une très bonne question, c'est une question qui est légitime à poser. Mais à ce stade-ci, j'ai aucune inquiétude à savoir que les Chiefs, à me douter que les Chiefs veulent continuer son association avec.
Merci pour Laurent. On va continuer du côté d'Anthony. C'est toujours, on le sait, pour un agent, quand on parle d'un joueur qui vient d'être opéré, c'est toujours un peu tricky d'en parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Anthony au niveau de l'état de santé, puis c'est quand est-ce qu'il va être en mesure de revenir au jeu? En fait, de reprendre l'entraînement ou de reprendre les pratiques pour la saison à venir.
Oui, ben c'est sûr que je veux pas, vous savez comment la NFL fonctionne. On est un peu limité dans les informations qu'on peut donner au niveau des blessures. Ben, je peux vous dire que l'opération a très bien été. Et puis qu'il y a aucun. Tout est en place, la guérison va super bien. Puis Anthony, c'est une guérison qui va prendre un certain temps, mais qui va être prêt pour la saison prochaine. Il va être prêt pour toutes les étapes, incluant là. Les camps d'entraînement et les fameux OTAs, ne devraient pas avoir de problème pour ça. Donc, c'est sûr que la saison finit un peu plus tôt qu'il aurait voulu. On parle de, il restait près de 8 matchs à la saison, 15 s'est blessé. Mais en même temps, c'est quand même, il y a eu 8, moi, je préfère regarder ça, qu'il y a eu 8 matchs de cette saison, plus 16 l'année passée, plus, je pense, un autre 8 ou 10 matchs de la saison d'avant. T'sais. Donc, c'est quand même beaucoup de matchs sur un premier contrat qu'il a pu jouer, faire partie de l'alignement du 46. Donc, je pense que au final, c'est une belle opportunité. Il y a eu des belles opportunités, il a montré des très belles choses. La blessure est malheureuse, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été bien traitée. L'opération a été faite par le meilleur chirurgien orthopédique pour pieds et chevilles, je vous dirais, peut-être au monde, surtout en Amérique du Nord, définitivement, et que c'est tout se passe comme prévu.
Écoute, Sacha, je te relance parce que j'ai parlé à Anthony cette semaine. On a diffusé quelques papiers là, dans le Journal de Québec suite à l'entretien que j'ai eu avec lui. Il m'a mentionné un élément intéressant. Il n'a pas voulu aller plus loin. Je me doute que tu te mouilleras peut-être pas non plus. Mais on sait que c'est sa dernière année de contrat. Il m'a dit le processus va commencer bientôt. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'intérêt des Buccaneers à son endroit? Est-ce qu'il y a eu des discussions qui ont été amorcées? Est-ce que les Buccaneers ont été vers toi pour te signaler leur intérêt à prolonger leur association? Bref, où ça en est, là, cette histoire de processus-là?
Oui, c'est une bonne question. Effectivement, c'est temps que je ne mourrai pas trop. Mais je peux vous dire c'est sûr que moi, mon travail, c'est de. Tu sais, je veux pas, la convention collective fonctionne d'une certaine façon que Anthony, quand il est signé comme joueur non repêché, c'est un contrat de 3 ans. Et donc, dès le début de la 3e année, on est en mesure de négocier une extension de contrat, comme on a fait avec Laurent. Lui était repêché, donc c'était après la 3e année, puisque c'est un contrat de 4 ans. Donc, c'est juste qu'on recule d'un an dans le cas d'Anthony. Moi, j'ai des discussions avec les équipes sur une base régulière et on parle et je veux pas, ça fait partie de mon travail d'explorer la suite des choses et à quoi devrait-on se préparer pour les prochaines étapes. Puis ce que je peux vous dire, c'est que les Buccaneers sont très satisfaits de ce qu'Anthony leur apporte. Je pense que autant le personnel d'administration, donc le directeur général et ses adjoints, mais aussi les entraîneurs. Et ça, je pense que c'est en l'honneur d'Anthony, puis on en a pas parlé beaucoup, mais c'est pas facile de devoir repartir à zéro avec un nouveau personnel d'entraîneur.
Tout à fait.
À ta 3e année dans une année de contrat. Et il y a pas beaucoup de joueurs nécessairement qui peuvent dire qu'ils vont faire partie. On l'a vu, regardez, les Buccaneers, ils perdent pas de temps. Vernon Hargreaves, il y a 2 semaines, a été libéré. Bruce Arians ne le voulait plus. Il s'est fait libérer. Anthony est dans une nouvelle équipe avec un coach qui, on disait tous, il joue pas beaucoup avec les délais rapprochés. Quoique avec les Steelers à l'époque, Bruce Arians utilisait beaucoup ses délais rapprochés. Mais bon, avec les Cardinals, c'est vrai qu'il utilisait moins. Mais Anthony a réussi à gagner la confiance, non seulement de son entraîneur de position, mais de son entraîneur à l'attaque et aussi de son entraîneur-chef. Et à un point tel que, si on parle de la blessure, mais si vous regardez le pourcentage des jeux joué à l'attaque d'Anthony contre Seattle, dans le match qui s'est blessé, d'ailleurs qui s'est blessé au premier quart, je crois, au premier demi du moins. Il a rejoué au-dessus de 50% des jeux à l'attaque.
Et, sa moyenne habituelle, c'est autour de 30%. Là.
Et voilà. Et c'est pas parce que OJ était blessé, oui, Anthony c'est le remplacer, il prend la place, mais on l'a vu dans d'autres équipes, puis on l'a vu souvent quand des joueurs de premier plan se blessent, s'ils pensent pas que le remplaçant pour faire le travail, ils vont aller chercher quelqu'un d'autre de disponible pour jouer ce rôle-là. Et le fait que Bruce Arians ait mis sa confiance dans Anthony à un point tel, malgré la blessure à OJ, ça montre le potentiel élevé qu'Anthony a. Et je m'excuse, là, je prends un long détour pour répondre à ta question, mais au final, c'est que la satisfaction de l'équipe est là. Mais c'est surtout qu'un processus de négociation, c'est pas parce que tu es satisfait d'un joueur que nécessairement ça veut dire qu'une entente va se conclure dans quelques jours. C'est un processus qui est long, c'est un processus qui va faire partie on va devoir faire preuve de patience et de discussion continue avec l'équipe. Mais je sais que l'équipe est satisfaite. Puis ça, c'est toujours la première étape. C'est facile pour des équipes de dire qu'ils sont pas satisfaits ou qu'ils sont pas intéressés. Clairement, ils sont satisfaits, donc il y a un intérêt, mais il faut voir si on est capable de s'entendre.
Anthony. Sacha, on va continuer. Je sais que tu as un engagement bientôt. On te remercie d'être disponible. On va y aller avec un dernier sujet. La saison de 17 matchs dans la NFL, peut-être la saison 2021. Est-ce que tu crois que les informations que tu as, les lectures que tu as faites dans les médias, est-ce que tu crois que c'est un done deal ou il y a encore des anicroches là qui pourraient faire en sorte que ça n'ait pas lieu?
Ben, c'est parce qu'il faut prendre la convention collective comme un tout, OK? Le 17 matchs est une demande de la Ligue. Écoute, c'est pas nouveau, ça. Hein?
Non, on parlait même de la saison 18 matchs.
On parlait beaucoup de 18 matchs. Ça fait longtemps que la Ligue n'a pas à la firme sans vouloir se cacher sa volonté d'augmenter le nombre de matchs en saison régulière. Mais je pense qu'au final, l'association des joueurs va considérer cette demande-là si d'autres demandes de leur part sont respectées et qu'on est capable d'aller chercher d'autres concessions de la part des propriétaires. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les discussions semblent être positives. Et ça, c'est très bien. Parce que on se cachera pas que la dernière fois que les négociations ont eu lieu pour les conventions collectives avec la NFL, ça n'a pas été d'une façon très harmonieuse pendant longtemps. Ça a même mené à un arrêt de travail pendant quelques temps. Donc, le fait qu'on est capable de voir qu'il y a du progrès, que l'association des joueurs ne semble pas être contre les 17 matchs, s'il y a d'autres concessions qui sont faites, je pense que c'est de bon augure. Et je salue la volonté de l'équipe et de l'association des joueurs de tenter d'arriver à une entente dans les prochains mois et de ne pas attendre la date limite de la dernière saison pour essayer de s'entendre. Je pense que ce serait une très bonne nouvelle si on est capable de trouver un terrain d'entente convenable pour l'ensemble des parties d'ici là.
La sécurité des joueurs, c'est quelque chose qui t'inquiète? Tu représentes des joueurs, là, donc logiquement, je vais te poser la question.
Ben, c'est sûr. Moi, j'ai pas caché mon mécontentement en regardant le terrain au Mexique. Quand j'ai vu des joueurs glisser partout, et je suis pas du genre à aller sur Twitter, mais là-dessus, j'ai trouvé ça pertinent de le partager parce que je trouvais ça inacceptable que dans un match à NFL, des carrières soient en jeu et des terrains soient pas en bon état. Puis c'est la même chose avec ajouter un match de plus, c'est 17 matchs versus 16. C'est un match de plus, donc on augmente le pourcentage de chances de blessure de au-dessus de 5% en ajoutant un match. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose qui est un enjeu. Puis là, ce sont des joueurs qui ne prendront pas ça à la légère. Ceci étant dit, si c'est fait de façon intelligente et si on compense par autre chose qui vienne aider les joueurs, ben j'ai absolument, je suis tout à fait pour des négociations dans ce sens-là. Si ça fait du sens dans l'ensemble de l'œuvre, une convention collective ne se lit pas une clause par une clause, elle se lit dans son ensemble pour s'assurer que les conditions de travail sont acceptables et respectables pour les athlètes.
Parfait, Sacha, ça a été fort intéressant. Merci d'avoir été disponible et on va te souhaiter là, une bonne fin de saison de la NFL, tout succès possible à tes clients, que ce soit NFL ou Ligue canadienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sacha.
Merci, Sacha.
C'est gentil, merci à vous autres.
Parfait, bonne fin de journée. Alors, messieurs, fort intéressant, on prend-tu une petite pause pour en s'en aller directement aux prédictions? C'est ce qu'on va faire.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
I got news for you, buddy. We're gonna win the game. I guarantee it. I guarantee it. I guarantee it.
Enough said.
Alors, nous sommes de retour. On a quelques matchs intéressants pour le week-end à venir et on commence directement Buccaneers qui visitent les Falcons. Les gars, les Falcons qui ont encore explosé un adversaire le week-end dernier. On s'est tous plantés. Stéphane, est-ce que là c'est un match-up de deux équipes à 3-7? Les Falcons, troisième de suite?
Ben, c'est fort possible, puis j'aurais jamais cru dire ça parce que les Falcons étaient partis de manière misérable depuis le début de l'année, puis moi, je comprenais pas ce qui se passait avec cette équipe-là, puis je comprends toujours pas qu'on parle des Falcons comme une équipe de 3-7. Pour moi, c'est un mystère.
Leur carrière joue tellement bien.
Ben,
c'est pas de la faute à Matt Ryan pendant tout ça. Là.
Il est pas nécessairement dominant cette année, mais il joue bien. Il fait le travail. Écoute, la défensive a été pitoyable, ça, depuis le début de l'année, faut se le dire. Mais depuis deux semaines, écoute, on parle de 11 sacs du corps, une pression qui est constante sur le corps arrière. Ça, c'est surprenant. Pourquoi? Moi, la grande question dans leur cas, c'est pourquoi le réveil survient maintenant? Tu sais, ça, c'est le mystère. Parce que tu bats les Saints, tu bats les Panthers, c'est quand même pas des clubs de deux de pique, là, non plus. Tu sais, c'est des clubs qui jouaient bien. Puis Atlanta arrive, sort de nulle part. Moi, la seule raison qui me permet d'expliquer ça, puis écoute, c'est pas des informations privilégiées, c'est une opinion, c'est que probablement que les joueurs se sont réunis puis qu'ils ont voulu sauver la job de Dan Quinn, l'entraîneur-chef. Je vois pas d'autre explication parce que cette équipe-là est méconnaissable en ce moment depuis deux semaines. Puis je pense que ça peut se poursuivre contre Tampa Bay. Écoute, c'est une défensive Tampa Bay qui est très faible contre la passe. La passe est un point fort d'Atlanta. Si le pass rush des Falcons continue de la sorte, les Buccaneers, qui sont pas nécessairement forts en protection de passe, ça risque d'être une troisième de suite. Franchement, les Falcons, là, le réveil, moi, je pense que je l'attribue au fait de montrer un peu d'appréciation, un peu d'amour pour leur entraîneur-chef.
Je vais y aller avec les Falcons aussi. Jean Garrier?
Je vais également avec les Falcons. Je suis quand même un petit peu heureux qu'ils soient en mesure de montrer un brin de professionnalisme, tout simplement, dans les derniers matchs. Mais tu sais, face à part, je pense que tu as mis le doigt dessus, Stéphane, c'est la défensive qu'il faut absolument regarder avec les Falcons. C'était la même chose l'an dernier. L'attaque marchait rondement là, l'an passé. Il y avait aucun problème là. Ouais. Mais la défensive, ben écoute, c'est ça qui est le
plusieurs interceptions le match dernier.
C'est ça qui est le talon d'Achille de cette équipe-là. Si la défensive fait le boulot, ben ils ont des bonnes chances de remporter les matchs parce qu'ils sont très dangereux offensivement. Puis quand t'as Julio Jones, Calvin Ridley, Matt Ryan, ben tu vas être en mesure de lancer le ballon sur le sens du monde, ça y a aucun problème. Donc je vois une victoire des Falcons contre une tertiaire difficile du côté des Bucks.
Broncos qui ont chauffé les Vikings le week-end dernier, qui visitent les Bills. Stéphane, qui tu vois remporter ce match?
Écoute, c'est un match piège, ça, pour les Bills.
Je suis d'accord avec toi.
Écoute, cette semaine, moi, je me suis dit, j'y vais avec l'upset Broncos, puis à la dernière minute, j'ai reviré ça de bord. J'ai dit, les Bills perdront pas chez eux, je le vois pas. Mais honnêtement, tout me dit que les Broncos ont le stuff nécessaire pour remporter ce match-up-là. Écoute, les Bills, qui sont quand même attaquables là, par la course, puis t'as un bon tandem de porteurs de ballon à Denver. Je pense qu'il faut commencer à donner vraiment plus le ballon à Philip Lindsay. C'est lui qui se démarque, mais écoutez ça, il y a un seul match de 20 courses ou plus cette année.
Un peu surprenant.
Je sais pas pourquoi les Broncos le ménagent à ce point. Je comprends que Royce Freeman est capable de faire le boulot aussi, mais quand même, je pense que ton cheval, c'est Philip Lindsay. Cela étant dit, écoute... Brandon Allen, je lui fais toujours pas confiance. T'sais, c'est un jeune, il n'y a pas vraiment de bagage pour ces matchs-là, je pense. Là, quand tu arrives dans des matchs d'hiver, de climat hivernal à Buffalo, ça risque d'être très difficile pour lui. J'y vais avec les Bills, mais c'est un peu à contre-cœur. C'est pas une question de partisanerie, c'est que je sens vraiment le piège là, pour eux autres.
J'y vais avec les Bills aussi, mais avec les mêmes réserves. John ici?
Les Bills également, puis les Bills, c'est un match important parce que après le calendrier, ça devient vraiment, vraiment plus complexe.
Donc, faut gagner ce match-là.
Ouais, moi, je pense que oui. Si, écoute, si, on a dit qu'avec le début de saison des Bills, ben qu'ils sont en bonne position pour faire les séries. Ça, c'est un match qu'ils ne doivent pas échapper. Je pense qu'ils vont être en mesure de faire assez. Je pense que Josh Allen va être tout simplement meilleur que son opposant. Avec le même nom, d'ailleurs. Même nom.
Garde
et
Allen. Un lien de parenté.
Non, je pense pas. Mais dans le cas de Josh Allen aussi, ce que j'aime, c'est qu'il est équipé pour être bon dans le froid. Un grand carrière.
Capable de courir.
Capable de courir avec des mains de mutant aussi.
C'est clair.
Non, mais c'est, les gars, quand il fait pas beau, il pleut.
Fait pour pis, prendre le ballon.
Prendre le ballon des carrières avec des petites mains comme Baker Mayfield, c'est toujours été un des points qui m'a titillé un peu quand les Browns ont repêché. Ben, en Ohio, t'as pas une super température. Là, t'as un carrière avec des petites mains. Des fois, c'est complexe pour lancer le ballon. Dans ce cas-ci, c'est pas un problème pour Allen. Il est bien équipé. Puis la semaine dernière, ça a été son meilleur match, pas loin d'être à vie, là. Oui, c'était contre les Dolphins. J'en suis conscient. Mais il a quand même fait la job. Écoute, 22-36, je pense, plus de 300 verges, 3 touchés. C'est pas mal irréprochable. Moi, je pense que les Bills vont arriver avec confiance puis devraient faire assez pour battre les Broncos.
Il a quand même été habitué à des conditions difficiles dans le Wyoming.
Oui, oui, tout à fait.
On poursuit notre tour d'horizon pour les matchs du week-end. Ça, c'est rendu une semi-coupe des ordures, là. Giants qui visitent les Bears, les Giants 2-8 et les Bears 4-6. Je vais aller du côté de Jean Carrier, tiens, cette fois-ci. John Essie, qui remporte ce match?
Écoute, c'est pas un match palpitant.
Non, pas tant.
mais je vais y aller avec les G-Men.
Les G-Men on the road.
Ouais, sur la route, je pense qu'ils... Écoute, les Bears, c'est offensivement, il se passe...
Non, c'est critique. C'est, là, comment c'est pas bon?
Présentement, c'est un cimetière, présentement, pour jouer. Puis honnêtement, je pense que ça affecte un peu le moral de la défensive. La défensive a moins de...
Moins de mordant.
Oui, moins de mordant, moins de oomph.
Moins de spirit.
Oui, parce que justement, ben ils savent que à la seconde qu'ils donnent un peu de verge ou des points, ben c'est presque terminé. Donc, j'ai l'impression que les Giants vont être juste assez... Vont
juste en faire assez.
Oui, exact, pour battre les Bears. On dirait que c'est l'équipe la moins médiocre qui va remporter le match.
Bon, je vais y aller avec une victoire des Bears... sont à la maison, leur défensive est bonne, puis Jones est propre. C'est fait des revirements. Donc, je vais avec une victoire des Bears, mais c'est pas avec conviction. Stéphane?
Ben, Johnny parlait de la défensive des Bears. Moi, je pense que c'est là que ça peut se jouer. Oui, c'est vrai que, écoute, à un moment donné, ça peut devenir démoralisant. Je comprends totalement ton point, Johnny. Ils font tout sur le terrain, puis l'attaque est pas capable d'acheter un toucher, là. il y a un moment donné où ça peut devenir dur sur le moral. Cela étant dit, les Giants ont déjà donné 34 sacs du corps cette saison. Je pense que Khalil Mack, là, il est temps qu'il sorte un peu de sa torpeur. Écoutez, il y a un sac à ses 6 derniers matchs, Khalil Mack. C'est pas le joueur qu'on connaît. Je comprends qu'à un moment donné, il n'y a pas que les sacs. Les pressions, ça compte. La façon que tu affectes le corps arrière de différentes façons. Mais je pense que ça pourrait être le match où il se fâche puis qu'il sent un peu, il renifle l'odeur du sang, le bon vieux Khalil Mack. On devrait le voir en force contre les Giants.
Donc, victoire, oui. Vas-y.
Ben, écoute, j'ai juste un flash sur Khalil Mack. Khalil Mack, moi, je le compare à feu d'Eric Thomas. C'est un joueur qui marche par bourré. C'est pas le gars le
par
plus...
Par séquence.
Par séquence, exactement. C'est pas le joueur le plus constant, mais quand il est bon, ben là, il est extraordinaire. On pense que c'est Lawrence Taylor, mais ce n'est pas Lawrence Taylor.
Ben, tu sais, contre la ligne offensive des Giants, je vois ce match-là comme un genre de moment où il peut prendre le
coup. Ah oui, c'est possible. Là. C'est possible que le carrière des Giants aille à boucherie. Il n'y a aucun doute.
La morale de l'histoire, c'est victoire des Bears malgré Mitch Trubisky.
Exactement. Ça, c'est un match piège pour les Steelers qui visite les Bengals. L'attaque des Steelers avec Captain Checkdown n'est pas convaincante à la position de carrière. Je vais avec une victoire des Steelers. C'est clairement le partisan qui parle, mais même si les Bengals n'ont pas une victoire, je serais pas surpris qu'il arrive une catastrophe dans ce match-là et qu'ils perdent. Stéphane.
Écoute, les Steelers peuvent pas échapper ça.
Mais non, je sais qu'ils peuvent pas, mais
je comprends.
Les mauvais clubs, les Steelers jouent tout le temps mal.
Ils s'abaissent à la hauteur de leurs adversaires.
Tout le temps.
Ça fait des années que c'est comme
ça. La semaine passée, c'est arrivé.
Donc, ils vont gagner.
Johnny va me ramasser tantôt, c'est correct.
Ils vont gagner, mais ça pourrait être plus compliqué là, qu'on pense. Ils vont avoir le don de se compliquer la vie un peu. Là. Mais écoute, je peux tout simplement pas... En ce moment, y aller avec une victoire des Bengals, c'est le miracle.
Ah, sont vraiment
le miracle qui ne peut pas se produire.
Johnny, tu peux me mettre à ma place et me donner ta prédiction pour ce match-là.
Honnêtement, ma prédiction va à la... C'est une prédiction conditionnelle. Juju Smith n'est pas de l'alignement partant, ainsi que James Conner, je vois peut-être la première victoire des Bengals, messieurs. Parce que
l'attaque est limitée.
Parce qu'à un certain moment, Mason Rudolph, première des choses, c'est pas le sauveur. On l'a vu la semaine dernière. Et ça prend un minimum d'outils. Là, si tu perds ton receveur numéro un, t'as déjà des receveurs très jeunes. Avec les Steelers, je dis pas qu'ils n'ont pas de talent, mais ils sont très jeunes.
Non, on est très jeunes.
Et là, t'as un porteur de ballon qui est solide, que tu peux compter, puis il faut pas oublier que Pansy ne sera pas là sur la ligne à l'attaque. Ben, tout ça en considération dans un match de division.
Faut jamais oublier que les matchs de division dans NFL, il y a une intensité de plus.
J'ai l'impression que les Bengals ont encerclé un peu le match, puis ils disent ça, c'est notre Super Bowl.
T'sais, on peut aller leur fucker leur saison.
Exactement, puis c'est peut-être ce qui va arriver. Par contre, surtout Juju Smith-Schuster. Si Juju est de l'alignement, j'ai l'impression que les Steelers vont remporter le match. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air qu'il va être du match-up. Un peu pour fâcher, en plus, mon collègue Mathieu, joue avec une victoire des Bengals.
Wow. J'allais mon gars au bar. Je me demandais qui c'est que j'allais envoyer au bar. J'ai envoyé John ici, en blague, bien sûr. On continue. Les Browns, justement, je vais me revirer vers Johnny, sans, bien sûr, Garrett, le joueur défensif, à cause de son manque de brain de la semaine dernière. Qui visite les Dolphins. Les Dolphins visitent les Browns. Johnny, je crois que ton équipe devrait, malgré l'absence de Garrett, devrait être en mesure de remporter ce match-là.
Devrait. Je choisis les Browns, mais ça sera pas facile. La tertiaire est extrêmement amochée du côté de Cleveland.
Oh, il y a des blessures.
Et du côté des Dolphins, on peut dire ce qu'on veut, mais depuis que Fitzpatrick est en place, ben ils sont capables de lancer le ballon. Avec une certaine efficacité. Donc, je m'attends quand même à un match plutôt serré, surtout que là, tu perds ta principale arme pour mettre de la pression sur le corps arrière. Mais écoute, l'attaque des Browns devrait normalement marcher sur celle des Dolphins. Je m'attends à une victoire des Browns.
Stéphane.
Ouais, moi, j'aime que Baker Mayfield, à ses deux derniers matchs, pas d'interception.
Ouais,
c'est quand même rassurant parce que depuis le début de l'année, ça faisait peur, là. Il manquait clairement de jugement. Ça, c'est un peu rassurant là, du côté de Cleveland. Mais surtout, je pense que ça va être un match où Nick Chubb pourrait faire des dégâts monstrueux. Écoute, je serais pas surpris là, de le voir gagner 200 verges au sol dans ce match-là, carrément.
Un bon 200.
La seule affaire qui peut le priver de son 200,
c'est Kareem Hunt.
Kareem Hunt joue bien. Il joue très bien. Moi, je suis surpris. Je m'attendais pas qu'il y ait un impact. Là. Écoutez, vous allez me dire, il a pas couru tant que ça. Non. Mais je trouve qu'il court avec beaucoup de vigueur. Il court de manière physique. C'est Nord-Sud, il est impliqué dans le jeu aérien.
Ouais, puis il l'implique bien au niveau du jeu aérien. Là, il fait du bon boulot.
Ben, il a toujours été fort au niveau de la passe voilée avec les Chiefs. On sent que c'est une force qu'on veut continuer d'exploiter avec Cleveland. Mais bref, les porteurs de ballon vont se faire un plaisir fou contre Miami. Je pense que c'est là.
Ce que tu es en train de dire, j'aurais peut-être pu marquer en fin de semaine.
Probablement, là, comme 4 ou 5e back. Là, ça serait...
OK, on continue après cet commentaire plus ou moins pertinent. Panthers qui visite les Saints, deux clubs qui viennent justement de perdre contre les fameux Falcons. Johnny, est-ce que qui retrouve, qui remporte ce match-là?
Ça va être les Saints qui vont remporter ce match-là. Les Panthers, tranquillement, pas vite, leur mince chance de participer aux séries est en train de s'effriter, on va le dire comme ça. Et les minces chances d'avoir Christian McCaffrey remporter le joueur le plus utile. Ils vont exactement dans la même lignée que les chances des Panthers de
going down.
Oh, tout à fait. Donc, dans ce match-là, honnêtement, les Saints, ils étaient fâchés la semaine dernière, retrouvent leur domicile, devraient honnêtement l'emporter quand même facilement.
Ah, facilement, tu veux une victoire facile?
Ouais, par deux touchés.
Moi, j'y vais contre toute logique, victoire des Panthers.
Oh!
Wow! Des fois.
Sur quelle base?
Sur aucune base. T'sais, c'est dans la même logique des fois que McCaffrey va prendre le contrôle de ce game-là contre la meilleure D-line de la ligue. Oui, je sais que c'est bizarre, c'est ce qui va arriver. Victoire des Panthers. C'est un peu comme les Titans, là. Des fois, là, ils sont dans un setup, tu dis ils vont perdre, puis ils viennent par gagner. Stéphane.
Écoute, la semaine passée, moi, ce que j'ai vu d'Alvin Kamara, c'était. Le retour du vrai Alvin Kamara.
Ah, il est-tu bon, lui, c'est l'enfer.
Ouais, mais depuis qu'il est revenu de sa blessure, il était quand même hésitant.
Stéphane, ouais.
C'était tranquille au niveau de la production. La semaine passée, j'ai revu celui qu'on s'attend de voir à chaque dimanche. Puis écoute, les Panthers qui ont vraiment des difficultés contre le jeu au sol, je pense que ça va être le match où il va vraiment sortir de sa coquille. On l'attend depuis quelques semaines, c'est là. Puis surtout que les Saints ont besoin de lui donner le ballon parce que les Panthers, c'est une équipe. S'il y a une grande qualité dans cette équipe-là, c'est au niveau du pass rush. 39 sacs du corps sont premiers dans la ligue à ce chapitre-là. Tu veux pas exposer Drew Brees inutilement. Il y a des blessures sur la ligne offensive. Remets le ballon à Kamara, puis de bonnes choses vont arriver. Victoire Saints.
Juste un petit...
Oui, vas-y, Johnny.
Depuis que Kyle Allen avait pris l'attaque en main des Chiefs, ça allait bien.
Oh, la semaine passée, ça a été moins bien un peu.
Quatre interceptions, mais dans les... 4 derniers matchs, c'est 9 interceptions pour Kyle Allen. Tant aussi longtemps qu'il va le lancer ou que les Panthers ne feront pas attention au ballon, honnêtement, les chances de gagner, ça va être très difficile.
Raiders qui visitent les Jets. Les Raiders qui, soyons honnêtes, là, donnent du très, très bon football cette année. Victoire des Raiders, Johnny, direct, ou tu vois un petit peu plus un match plus compliqué que ce qu'on pourrait penser?
Plus compliqué. Je trouve que les Raiders sont peut-être dus pour une mini contre-performance. Donc, c'est possible que les Jets là, soient en mesure de faire la surprise. Mais je pense quand même que les Raiders vont l'emporter parce que, écoute, c'est le contraire de ce que je viens de dire avec Kyle Allen. Les Raiders font vraiment attention au ballon. Quand tu regardes, il n'y a pas de revirement avec cette équipe-là. Donc, présentement, ils ne se battent pas eux-mêmes. Et j'ai l'impression que les Jets vont trouver une façon de se battre eux-mêmes.
Il va apparaître des fantômes sur le terrain.
Donc, victoire des Raiders.
Victoire des Raiders aussi. Stéphane, as-tu un upset dans ta manche?
Oui, monsieur.
Oh, there you go.
Écoute, c'est drôle à dire parce que les Raiders jouent leur meilleur football depuis 2-3 ans, là, ça c'est clair. Puis j'aime le point de Johnny, par contre, que les Jets peuvent toujours trouver un moyen de se battre eux-mêmes avec des revirements. Cela étant dit... Les succès des Raiders passent beaucoup, je trouve, par l'éclosion du porteur de ballon recrue Josh Jacobs. En ce moment, tu sais, il joue de façon extraordinaire. Il est impliqué dans toutes les facettes du jeu. Les Jets donnent seulement 3 verges par course cette saison. Croyez-le ou non, c'est la meilleure défensive contre la course. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Je pense que si tu ne peux pas mettre le ballon entre les mains de Josh Jacobs à répétition, les Raiders deviennent une équipe beaucoup plus fade à l'attaque. Derek Carr est un bon corps arrière, mais je pense pas que c'est un corps arrière extraordinaire non plus. Écoute, c'est le genre de match où ils s'en vont sur la côte Est, un long voyage, ils n'ont pas le support du Black Hole. C'est le genre de match où les Raiders, traditionnellement, sont capables de trébucher.
Et se retrouver au bar. On continue. Lyon, qui visite les Redskins. Moi, j'irais qu'une victoire des Lions. Là, les Redskins se battent, dans le fond, pour aller chercher le premier choix au pêchage l'année prochaine. Les Lions, on sent qu'avec Driscoll, au moins, la carrière remplaçant, on a un gars craqué qui veut gagner puis qui veut rester dans la NFL. Puis qui, le week-end dernier contre Dallas, a vraiment pas mal paru. Donc, je vais avec une victoire des Lions. Johnny?
Même chose, victoire des Lions. Puis tu fais bien de mentionner Driscoll parce que j'avais aucune confiance en lui pour l'avoir vu jouer avec notamment mes Gators de la Floride au niveau de la NCAA. Mais je dois admettre qu'il a été très bon la semaine dernière. Est-ce que ça... Puis écoute, les Redskins, c'est dans les équipes qui sont simplement tristes présentement dans la NFL. Écoute, je voyais que le prix des billets présentement...
Ah oui, c'est malade, ça!
Écoute, il y avait des billets à 5$.
Wow.
Donc, écoute, c'est...
Qui ne trouve pas preneur.
Qui ne trouve pas preneur.
C'est ça qui est malade.
Ça a l'air que la fanfare est à veille depuis y aller.
Stéphane, de ton côté?
Moi, je vais résumer ça simplement. À cause des Redskins, je vais prendre les Lions.
Oui, très bien résumé. On poursuit notre tour d'horizon. Match de division important pour ces équipes-là pour garder l'espoir de participer aux séries. Les Jaguars 4-6 qui visitent les Titans. Et là, je vais y aller avec mon classique club schizophrène. À la maison, ils devraient l'emporter. Les Titans vont passer au bord, puis ils vont l'échapper. Johnny!
Ouais, je les ai mieux sizés un petit peu là dans les dernières semaines, les Titans.
Explique-nous, parce qu'on les comprend.
Explique-nous, parce que c'est pas toujours évident.
Honnêtement, le micro est à toi.
Je pense juste que je suis sur une séquence chanceuse, messieurs. Je prends les Titans à la maison. Comme tu l'as mentionné, c'est un match qu'ils se doivent de remporter. J'aime, depuis le changement de carrière, leur attaque est nettement plus explosive. Je mets ça en parenthèse parce que je
suis... Explosif, un pétard. Là, avant, il n'y avait rien.
Ouais, exact. c'est aussi simple que ça. Mais au moins, elle est respectable, leur attaque, depuis le changement de carrière. Puis du côté des Jaguars, je suis pas... Écoute, j'étais vendu au début de l'année, mais il manque de profondeur dans cette équipe-là. Notamment, écoute, je sais que au niveau du porteur de ballon, il y a une très bonne saison. Là, je parle de
Monsieur Fournette.
Ouais, Leonard Fournette. Mais il y a personne qui
souvent c'est ça. Il y a personne en arrière. Là.
Souvent, il est pas frais des fois par moment sur le terrain. Moi, je pense qu'il y aurait avantage à peut-être à être enlevé de temps à autre pour lui donner peut-être un peu plus là, de repos. Nick Foles, c'est son retour. Écoute, j'y crois pas, tout simplement. Je ne crois pas aux Jags. Je joue avec les Titans.
Stéphane?
Moi, je vous pose une question. Combien de verges les Jaguars de Jacksonville ont accordé par la course depuis 2 semaines?
Tu vas avoir une réponse pour nous.
480.
Ouh!
Ça s'appelle se faire poivrer, mesdames, messieurs.
Donc, il y a un spécial Derrick Henry qui s'en vient.
C'est ce que j'allais dire. Lui, il salive, il bave, il a déjà hâte d'avoir le ballon, il voit ça, les boulevards s'ouvrir devant lui. Je pense que c'est là que ça va se décider, mais encore là, que connaissons-nous des Titans?
Exactement, donc, vraiment. Là.
J'y vais avec une victoire des Titans en sachant pas trop vers quoi je m'avance.
Non, exactement. Logiquement, les Titans devraient remporter ce match-là, mais il va arriver quelque chose, selon mon évaluation de la situation. Un des bons matchs du week-end, 4h25 dimanche, arrangez-vous pour que la popote soit faite, puis installez-vous devant la télé. Les Cowboys 6-4 qui visitent les Patriots. J'ai pensé mettre un upset là, puis je me suis revenu en disant qui a la meilleure defense de la ligue par un mille, peut-être une des très bonnes des dernières années, les Pats. Fait que non, Pats à la maison. Journée.
Écoute, on est quelle date? Fin novembre? Je vais prendre les Pats.
Oui, exactement. aussi.
C'est là que je commence à jouer au football. Ça.
Ouais, exactement. Je vais prendre les Pats à la maison. Je pense quand même que les Pats, offensivement, c'est rendu quand même difficile. Ils se cherchent un petit peu. On pense que Mohamed Sanou ne sera pas dans ce match-là. C'est peut-être le N'Keal Harry. Donc, écoute, je peux comprendre les gens de penser à un upset puis mettre les Cowboys, mais les Pats demandent les Pats et vont trouver tout simplement une façon de gagner comme ils l'ont fait la semaine dernière. Écoute, j'ai gagé contre les Pats. J'ai pris les Eagles la semaine dernière. Et écoute, ils ont trouvé une façon de gagner, jeu surprise. Puis,
avec Edelman.
Edelman, puis, défensivement, ben il ne donne rien, tout simplement. Donc, ça va être les Pats.
Stéphane, as-tu une surprise pour nous?
Non, malheureusement, pas de surprise. Je dis malheureusement, c'est pas une question de partisanerie, c'est que j'aime ça y aller avec des surprises, mais pas dans ce cas-là. C'est impossible. Je vois pas un match où Jason Garrett peut out-coacher Bill Belichick. Vraiment. Ça arrivera pas tant que je suis en vie. L'autre chose, c'est que Tom Brady actuellement est un peu sous la loupe. T'sais, il y a eu des commentaires d'après-match où il avait gagné, mais on le sentait extrêmement frustré de son niveau de jeu, du niveau de jeu de l'attaque. On commence à le remettre en doute. Puis qu'est-ce qui arrive à chaque fois qu'on remet en doute Tom Brady?
Non, il pète sa coche, puis il y a une game de 4 touchés.
C'est immanquable. C'est ça qui risque d'arriver. À chaque fois qu'on se met à se poser des questions, « Es-tu trop vieux? Le temps, commences-tu à le rattraper? Est-ce qu'il manque de receveurs? » Pourquoi sa ligne offensive le protège mal? Le jeu au sol fonctionne pas. Tout d'un coup, en claquant des doigts, Tom Brady redevient Tom Brady. Les Pats redeviennent les Pats. Je suis à peu près convaincu que c'est ce qui va arriver. Je sais qu'un jour, ça va arriver, là, la descente aux enfers des Patriots. Tout ce qui monte redescend, ça va arriver aux Pats aussi. Mais je pense pas qu'on en est rendu là, honnêtement. Sont bien appuyés par la défensive. Puis je pense que de plus en plus, l'attaque au mois de décembre va se roder, va arriver à son point culminant en série. Puis on va revoir les Patriots jouer tard en janvier, je ne serais pas surpris du tout.
Un autre match.
Vas-y. Ça reste un match important.
Vas-y, pas de problème.
Présentement aussi, écoute, quelle est la meilleure attaque au niveau des verges dans la NFL?
Dallas.
Boys.
Celle des Cowboys. Donc c'est quand même force contre force aussi. Ouais. Donc moi, j'ai l'impression que la défensive va l'emporter. Puis il y a un autre point. On vante avec... moi, je pense qu'on se rappelle de la défensive des Cowboys de l'an dernier, qui était très solide, mais c'est pas vrai qu'elle joue de la même façon cette année. Beaucoup plus molle. Les secondaires qu'on vantait avec raison, les Van Der Esch, etc., présentement ne jouent pas avec autant de hargne que l'an dernier. Puis je pense que ça va pareil contre les Pats. Et les Pats se cherchent au niveau terrestre. Moi, je pense qu'ils vont être capables de courir le ballon en fin de semaine.
Excellent, M. Carrier. Donc, je vous parlais de papa de prête. Arrangez-vous que ça soit prêt aussi le soir à 8h20.
Mais ça, t'as oublié un match à 1h, mon
frère. Oh, ben oui.
Je te ramène à l'ordre.
Merci. Le calendrier sur le site de la NFL mettait le match d'une heure plus bas. J'en suis désolé. Merci, Stéphane. Seahawks qui visite les Eagles, donc une équipe de 8-2 qui visite les Eagles 5-5. Et les Eagles ne peuvent pas perdre ce match-là. Johnny, qu'est-ce que tu as dans le collimateur, merci. Qu'est-ce que tu as dans le collimateur pour ce match-là?
J'ai les Seahawks qui vont remporter le match sur la route. Écoute, j'ai prévu en début d'année que les Seahawks gagneraient leur division. Et pour le faire, ben, ils ont besoin
de gagner ce match-là.
Ils ont besoin de continuer de gagner. Du côté des Eagles, honnêtement, on l'a vu un petit peu contre les Pats. Oui, la défensive est extraordinaire, mais il manque de punch à l'attaque, surtout au niveau des receveurs de passes. Ils n'ont pas de joueurs explosifs et ça va faire une différence contre les Seahawks. Victoire de Russell Wilson, qui est encore mon principal
candidat
au titre de joueur le plus utile de la NFL.
Je me colle à cette description-là, je dis Seahawks aussi. As-tu un upset ou une surprise pour l'équipe locale, M. Cadaret?
C'est étonnant parce qu'on parle d'upset, mais... Savez-vous que ce match-là, c'est les Eagles qui sont établis favoris par les preneurs au livre?
Il y a quelqu'un qui dort, là.
C'est étrange, je sais pas là, pourquoi. Je me l'explique mal, sincèrement. Cela dit, il y en a qui vont dire c'est parce que c'est à Philadelphie, les Seahawks sont à faire le long voyage sur la côte Est. Sauf que s'il y a un club que je prends cette année pour gagner sa route, c'est bien les Seahawks. Ils sont 5-0 à l'extérieur de Seattle. Puis écoute, depuis 2013, une statistique intéressante. On dit souvent, c'est dur pour les clubs de la côte ouest aller jouer dans le fuseau horaire de la côte est. Depuis 2013, les Seahawks sont 16-3 dans le fuseau horaire de l'est.
Un solide morceau de robot encore pour la recherche, Steph. Good job.
On peut parier en confiance, je pense, sur les Seahawks.
Excellent. Oui, vas-y,
Pete Carroll. Je sais pas pourquoi je veux en parler. C'est l'entraîneur le plus vieux de la NFL. Il a l'air le plus jeune encore, exactement. C'est
niveau de l'énergie, on comprend que les cheveux blancs.
Très énergique, puis Il me semble que si j'étais un joueur dans la NFL, j'aimerais ça jouer pour Pete Carroll. C'est juste ça que je veux dire.
Sauf si t'es porteur de ballon à ligne de 1 au Super Bowl.
Exact.
Exactement. Puis que tu viens de tout exploser l'autre équipe pendant plusieurs minutes.
Mais c'est un bon point que tu donnes, Steph, parce que il y a plusieurs équipes que je pense que l'organisation aurait pu s'écrouler après un tel appel, après avoir échappé le Super Bowl de cette façon-là. Et crédit à l'organisation qui non seulement ne s'est pas écroulée, mais joue du sapré bon football présentement.
Et on retourne à mon histoire de papote du match de 8h20. Ouais. Arrangez-vous pour que les enfants soient couchés et que vos repas pour la semaine soient prêts. Packers 8-2 qui visite les 49ers 9-1. Quel beau match, Johnny. Qu'est-ce que t'as pour nous dans ce match-là?
J'ai pensé longuement. Moi, j'ai les Packers qui renversent les 49ers. Je suis pas comment je dirais ça? Impressionné par la performance des Niners à l'attaque dans les dernières semaines. Je pense que les Packers vont être très solides défensivement, surtout au niveau aérien. C'est dur de lancer contre les Packers. Là, vous allez me dire, ouais, mais les Niners, ils aiment ça courir. Je pense que les Packers ont une semaine pour se préparer additionnelle. Ça va paraître, devrait être en mesure, pas nécessairement de complètement stopper le jeu au sol, mais du moins de le contrôler. Et pour toutes ces raisons, je choisis les Packers pour renverser les Niners. À l'attaque du côté de Green Bay, j'ai juste l'impression que Aaron Rodgers va être nettement supérieur à Jimmy G.
Cette analyse est fort intéressante, mais je m'y colle pas et j'y vais avec les 49ers. La D-line qui va courir après Rodgers tout l'après-midi et qui va trouver une manière d'aller chercher ce match-là. Stéphane.
Je rejoins l'ami John ici là-dessus, victoire Packers. Écoute, les Niners, tu parlais de gens qui t'ont pas forcément impressionné depuis 3 semaines au niveau de l'attaque. 2,9 verges par portée depuis 3 semaines. C'est surprenant, honnêtement.
C'est pas le même setup qu'au début de l'année, là.
Tu sais, on parlait probablement du champ arrière le plus en profondeur de la NFL depuis le début de l'année, tu sais, le plus diversifié. Puis finalement, les résultats tardent à se faire sentir depuis une couple de semaines. Je pense qu'Aaron Rodgers aussi, en match à heure de grande écoute, est toujours à son meilleur, même sur la route. On va voir le meilleur d'Aaron Rodgers. Puis c'est un match qui a une grosse incidence sur le classement final dans conférence pour le positionnement des équipes en série. Très, très important au niveau de l'enjeu parce que l'équipe qui gagne prend une grosse option sur l'avantage du terrain là, pour le reste des séries.
Et pour les Niners, c'est de continuer aussi de remporter la division. S'ils perdent, puis victoire des Seahawks, ben c'est les Seahawks qui sont maintenant au premier rang. Là.
On poursuit le match du lundi soir. Au début de l'année, on aurait dit ça va être malade ce match-là, Goff. Puis là, je sais pas, j'ai comme l'impression que les Ravens vont arriver en ville puis vont leur marcher dessus.
Je dirais pas marcher dessus parce que je dirais que les Rams jouent de la bonne défensive. On l'a vu aussi contre les Bears, mais les Bears, ce n'est pas les Ravens à l'attaque. Les Ravens sont vraiment solides, jouent du gros football, jouent du football inspiré. Mark Ingram, qui est même aller avec une boutade là, pour mentionner à quel point Lamar Jackson devrait être élu le joueur le plus utile. C'est un club qui est en confiance. Moi, je vois les Ravens battre les Rams relativement facilement. Mais je crois quand même que les Rams, défensivement, vont quand même donner de la difficulté, là, tout simplement, aux Ravens.
Donc, vous avez compris, je vais avec les Ravens. Stéphane, tu nous arrives-tu avec une grosse surprise?
J'y vais avec les Ravens aussi, puis il y a un point dont il faut parler. On parle énormément de Lamar Jackson, je pense que tout a été dit sur lui, fait que je veux pas en rajouter, mais la défensive des Ravens depuis 5 matchs a pas donné plus de 20 points. C'est ça, c'est important aussi dans une équipe. Là, on a beau parler des exploits de Jackson, il est bon par la passe, il est bon par la course, il alimente tout le monde autour de lui, les coéquipiers l'adorent, oui, mais il y a une défensive qui fait très bien le boulot depuis quelques semaines. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Jared Goff va peut-être trouver ça étourdissant lundi soir.
J'ai l'impression qu'il va trouver la soirée longue, en effet. Mais si on a fait le tour, j'ai rien oublié d'autre, Stéphane?
Ça va. En tant que chien de garde des matchs de la NFL, je te confirme que tout est beau.
Parfait, on va prendre une petite pause et on va se diriger vers la chronique au bar.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Alors, de retour dans la zone payante et on s'en va directement à la chronique au bar. Je vais y aller, puis je ferai pas de joke aujourd'hui. On envoie le go au bar, mais c'est surtout on veut mettre en évidence un manque de jugement extraordinaire. On frappe jamais personne, on frappe jamais une femme, on frappe jamais une femme enceinte. Et c'est ce qui est reproché aux joueurs, à l'ex-joueur des Dolphins de Miami, Monsieur Mark Walton, porteur de ballon. Honnêtement, tu n'as juste pas ta place dans la ligue. Pas au bord, en prison. Voilà, c'est ce que j'ai à dire.
Mais du côté de Walton aussi, c'est... Écoute, quelle pourriture, on va se le dire. Et moi, tout ce que je voulais pointer, c'est quelle université, où est-ce qu'il a joué, messieurs? Tug University, l'université par excellence pour
les crimes.
Ce genre de crime. Oui, je parle bien des Hurricanes de Miami. Donc, reflète bien, je dirais, son alma mater.
Quand même spécial, cette université-là, qui a eu des heures glorieuses quand même. Hein,
oui, tout à fait.
Mais qui forme des fois quelques bombes.
Ce que j'allais dire,
des joueurs qui disent « from the U », ils disent avec moins de fierté maintenant.
Oui, en effet. Johnny, t'envoies qui au bar? Qui mérite de se ramasser au bar? On va peut-être pouvoir s'amuser un peu plus, là.
Ancien joueur des Broncos, Falcons et Ravens. Maintenant, un journaliste, dont à ESPN et Undefeated. Je parle bien de Dominic Foxworth.
Ancien demi-coin safety.
Ouais, demi-défensif.
Demi-défensif, merci.
Donc, Monsieur Foxworth, je comprends l'importance de vouloir créer des codes d'écoute. Mais là, il y a des choses que tu peux pas dire à la télévision nationale. Et quand tu déclares que pour toi, l'entraîneur de l'année dans la NFL, c'est Brian Flores des Dolphins de Miami. Puis lui, ce qu'il a dit, c'est parce que il y a pas d'attente avec les Dolphins. Ouais. On pensait qu'il était 0-16. Il y a deux victoires. Excuse-moi, mais ils ont juste deux victoires. Peu importe ton raisonnement, honnêtement, je pense que Dominic Foxworth, je l'envoie au bar. Et il est condamné à boire de la tequila. Écoute, faut absolument lui remettre les idées rapidement en place. Donc, journaliste au bar, Dominic Foxworth.
Stéphane.
Moi, j'envoie au bar le bon vieux Philip Rivers.
Ah, oh, Philippe.
Honnêtement.
Mal de tête pour une de mes poules.
Philippe Ruisseau, tu ne peux pas faire ça. 4 interceptions là, la semaine
passée. Il n'a pas eu 3 le match d'avant.
La semaine précédente, ça fait 7, si vous savez bien compter, en 2 semaines. Cette saison, 15 touchés, 14 interceptions. Les Chargers se tirent dans le pied à chaque semaine. Philip Rivers en est la raison principale. C'est pas drôle de dire ça parce qu'il a eu une très bonne carrière, somme toute. Mais honnêtement, cette année, cherchez pas beaucoup plus loin les problèmes des Chargers. C'est un peu désolant. Donc, au bord. Peut-être que les gestes commis sont loin d'être aussi graves que celui de ton tata, Matt, Mark Walton.
Oui, très, très, très grave, les miens. Monsieur Walton.
Mais honnêtement, ça mérite quand même une place bien froide au bord.
Par contre, il faut faire attention à Monsieur Rivers. J'y souhaite de garder quand même un certain montant d'argent dans ses poches. Parce qu'on sait qu'il écoute, père de famille de 7 enfants, il peut pas tout gaspiller au bar.
Il n'est pas rendu à 9.
9 peut-être. Je sais qu'il y a une.
La blague la dernière fois, c'était qu'il pouvait maintenant, avec sa femme, avoir un alignement complet. Ouais, rien de moins. Donc, oui, en effet, il faut
très
pas.
Très productif à l'extérieur du terrain, Philip Rivers.
Oh oui, en effet. C'est bizarre, cette carrière-là. Il s'écroule tout le temps au mauvais moment. Tout le temps. Tout le temps, soit en série ou quand c'est la run de fin de saison pour rentrer en série, Monsieur Rivers disparaît au bar. Messieurs, c'était une édition fort intéressante de la zone payante. Merci d'avoir été là. On va vous inviter à venir faire un tour dans la section Fantasy où on va avoir des conseils pour vous, pour vos poules. Il y a encore des bails en fin de semaine, semaine 12. Il y a beaucoup de choses importantes dans les poules. Alors, on vous invite à venir nous rejoindre. Stéphane Cadorette, merci d'avoir été là. Et Jean Carrier.
Un plaisir.
Toujours un plaisir.
À la semaine prochaine.